Le monde est un campus avec Mohamed Alassane. Je suis originaire de Gofat, Agadez, au Niger. C'est un village de 400-500 habitants, hein, constitué des éleveurs et un peu de nomades aussi, ainsi que des agriculteurs qui commencent à s'installer. C'est un village à la porte du désert.
Et vous-même, vous êtes originaire d'une famille nomade ?
Je suis également originaire d'une famille nomade qui ont fait un peu de caravanes, ainsi qui ont fait beaucoup de villages avant de s'installer progressivement, définitivement à Gofat.
Et pourquoi est-ce que votre famille s'est installée ici ?
Le Niger, et surtout Agadez, a connu dans les années 80 des grandes sécheresses qui ont décimé beaucoup, beaucoup de troupeaux. Vous savez que les Touaregs sont beaucoup attachés au nomadisme, aux chameaux, tout ça, à leur cheptel des chameaux, donc qui ont beaucoup été décimés par les grandes sécheresses. Ce qui a poussé les gens à s'installer définitivement dans des villages pour pouvoir survivre. Donc j'ai grandi et je suis né Touareg, je continue et je suis fier de l'être.
Alors comment se sont passées les études pour vous ?
Alors les études c'était d'abord difficile pour moi au début, c'est difficile d'abandonner la vie nomade, la vie qu'on avait derrière les chameaux, derrière les cheptels, et embrasser une autre culture, le monde blanc, aller à l'école, tout ça c'est un peu difficile, mais après ça peut être une habitude, et voilà, il faudrait aller à l'école.
Aller à l'école pour vous, c'était vraiment associé au monde blanc ?
Aller à l'école pour moi, à un moment, oui, il faudrait aller apprendre à lire et à écrire pour le monde extérieur qui venait nous visiter de temps en temps, ces hommes blancs qui partaient, qui venaient visiter le Niger, tout ça. C'était devenu un besoin pour nous d'aller à l'école, devenir des cadres, des infirmiers, des enseignants pour le quotidien.
Mais quand vous dites que pour vous l'école au début c'était difficile, est-ce que c'est pour vous Mohamed ou alors plus pour votre peuple ?
C'est pour mon peuple d'abord en général, avant de parler de moi-même, parce qu'à un moment nous avons connu pas mal de périodes très difficiles, c'est-à-dire les rébellions Touareg. Beaucoup de populations se sont déplacées et cela a entraîné des difficultés aux enfants et surtout les parents d'amener des enfants à l'école. Il n'y en avait même pas des écoles, il y a des endroits où il n'y en avait même pas des écoles, c'était des associations, des amis de la France qui viennent souvent faire des classes, tout ça. Et après, quand la rébellion a commencé, tout ça, tout est détruit, tout est à refaire et beaucoup des enfants se sont retrouvés sans aller à l'école.
Et la rébellion, c'est quelle époque à peu près ? Quelles années ?
Dans les années 90, nous avons connu la rébellion et aussi dans les années 2008, tout récemment, nous avons aussi connu, donc c'est du vide. Secret, beaucoup d'enfants abandonnent à cette période-là. Et pour moi, c'est difficile à un moment parce que voilà, il faudrait aller entre la ville et le village. C'est encore difficile de s'installer en ville pour étudier. Donc, il faut aller chez les tuteurs. Tu te déplaces ou tu abandonnes tes parents pour aller dans une autre famille. Et puis, il y a eu des périodes où il y a tellement de grèves. Pas mal des années blanches, on va dire. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup des années qu'on a manqué pour rien du tout. Voilà.
Donc, vous, pour pouvoir poursuivre vos études, vous avez dû quitter votre village.
Voilà, j'ai dû quitter le village parce qu'il n'y avait même pas l'école primaire là-bas. Donc, j'étais parti en ville pour continuer mes études. Et après, j'étais obligé d'aller dans une école qui est dirigée par des missionnaires pour aller faire mon école primaire là-bas dans un cadre beaucoup plus organisé, beaucoup plus suivi. Quoi. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis d'aller au moins, d'obtenir mon certificat là-bas. Avant d'aller au collège.
Et alors, quand est-ce que vous avez découvert cette passion pour l'archéologie ?
Alors, pour l'archéologie, c'était vraiment grâce aux amis qui venaient. C'était un groupe d'amis des Américains qui venaient fouiller au Niger. Chaque année, je vois des véhicules qui passaient avec des autocollants de dinosaures, des espèces de créatures bizarres qui m'ont attiré, qui m'ont fasciné de savoir qu'est-ce que c'est, des grands lézards, comme on les appelle. Qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dinosaures qui sont couchés là et qui voulaient être encore redressés, pourquoi pas leur donner une vie, voilà, ne serait-ce que dans des musées au Niger ou quelque part. Ça m'a vraiment tenté, m'a passionné de voir à quelle période, à quelle époque et comment on vécu ces choses-là. Est-ce que réellement ça se trouve ici ou c'est des images et des histoires qu'on nous racontait. Donc c'était vraiment là où j'ai pris le virus, si vous voulez. Et donc, étant étudiant à l'université de Niamey, Donc j'ai pu demander un stage à faire auprès de ces amis-là qui fouillent au Niger, qui ont beaucoup découvert les premiers dinosaures au Niger et qui ont accepté voilà, de me prendre en tant que stagiaire, en tant que natif de la région, qui connaît bien les déserts, qui connaît les milieux. Donc je me suis trouvé dans mon propre environnement à un moment bien déterminé où j'ai déjà quelques acquis en géologie, tout ça. Donc ça m'a vraiment aidé plus à continuer.
Et vous faisiez à ce moment-là à l'université des études de quoi?
Je faisais des études en géologie et environnement. Donc.
Et est-ce que vous aviez entendu parler des dinosaures avant d'arriver sur ce chantier de fouilles?
Justement, la connaissance, moi j'ai connaissance des contes, des légendes que nos grands-parents nous racontaient. C'était une histoire des jobards, qu'on appelle les jobards, c'est des légendes. On fait la corrélation, on a l'impression qu'il y a une analogie entre cette histoire que nos grands-parents nous racontaient par rapport à ces mythes-là. Donc les gens ont idéalisé ces mythes, ces monstres géants qui vivaient à l'époque, qui prenaient des enfants, tout ça. C'était des belles histoires, on nous a vécu de ça. Donc je pense que non, les gens peut-être n'ont pas vécu avec les dinosaures, mais ils ont déjà connaissance qu'il y avait un monstre géant à l'époque qui vivait au Niger ou même dans les déserts.
Et donc c'était quoi cette histoire, qu'un monstre géant pouvait emporter les enfants?
On appelle ça l'histoire des jobards. Jobards, d'où aujourd'hui il y a un dinosaure qui s'appelle Jobaria. Vous voyez, donc les chercheurs ont fait une corrélation avec Jobaria. Donc c'était une histoire d'un monstre qui avait pris une belle fille du village, tout ça. C'est des histoires très intéressantes autour d'un thé le soir, en pleine dune, au-dessus des étoiles. Ça fait vivre.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces premiers dinosaures?
Vraiment, les sentiments, il est indescriptible. Je ne pouvais pas les décrire. C'était une émotion. J'avais une émotion, une très grande émotion de faire cette découverte, de voir plein de choses qui sont là, qui étaient couchées sous mes pieds, qui étaient une richesse incroyable à voir. Et donc, pour moi, il est évident qu'il fallait continuer dans ce sens à étudier dans un domaine approprié pour pouvoir rentrer en détail qu'est-ce que c'est aujourd'hui, dans quelle famille, quel genre de dinosaures j'ai. Tout ça, c'était un autre rêve. Et voilà, je suis là. Actuellement en train de les poursuivre, d'étudier au Muséum d'histoire naturelle pour comprendre un peu l'histoire évolutive ou l'histoire de mon pays, des espèces même en tant que telle. Oui.
Il n'était pas possible de poursuivre vos études au Niger?
On a des difficultés, il n'existait même pas un master où on peut faire une formation en archéologie ou en paléontologie surtout. On a une limite ou une possibilité d'aller jusqu'en licence. Et donc pour faire des études comme ça en archéologie ou en paléontologie beaucoup plus poussées, il faudrait des laboratoires appropriés, il faudrait des moyens, des enseignants beaucoup plus qualifiés, sachant que mon pays, très malheureusement, manque beaucoup de ces cadres, de ces gens, des paléontologues, des archéologues. Donc c'est l'une des raisons qui m'a poussé à venir ici en France et à continuer mes études avec des spécialistes de ces domaines-là. Voilà.
Et comment est-ce que vous avez fait pour venir en France? Vous avez eu une bourse ou...
Non, c'est grâce à l'aide de mes amis que je suis là en France. C'était une volonté personnelle de venir en France et de poursuivre mes études. Donc j'ai cette possibilité, j'ai cette chance d'avoir des amis très sympas. Des associations, une association qu'on appelle les Amis du Niger, et puis Imana La Vie, ça veut dire la vie, qui aujourd'hui s'occupe de moi pour m'aider à subvenir ou à continuer mes études, mes rêves, tout ça.
Est-ce que c'est la première fois que vous quittiez votre pays?
C'est la première fois que je viens dans un monde différent des miens. C'est un pays où tout est nouveau pour moi, tout est différent. Tout le monde est pressé ici, tout est bien calculé, le temps, c'est très important ici. Chez nous, on a l'habitude de croiser quelqu'un dans les chemins, de l'arrêter, discuter, papoter un peu, comme vous l'avez dit. Mais ici, c'est pas possible. Je ne veux pas dire que c'est trop individuel, mais quand même, chacun a sa manière de vivre, chacun a sa vie privée, chacun. Sauf que je me sens un peu solitaire, en fait. Hein. C'est différent de nous. On vit là-bas en communauté, ici. Voilà. Et j'ai trouvé la chambre comme un grand village, hein, vide.
Oui, parce que là, vous êtes seul dans une chambre.
Voilà,
ça vous était déjà arrivé avant?
Avant, non.
Voilà. Et vous mangez seul aussi?
Je mange seul aussi. Je mange seul aussi. Donc tout ça, oui, tout ça, c'est complètement différent, mais chaque pays, c'est selon sa culture. On a cette particularité, les Touaregs, de s'adapter, voilà. Les Touaregs, c'est des nomades. Ils vivent, ils s'adaptent selon l'environnement. Il fait chaud, il pleut ou il fait froid. C'est selon les tempéraments. Je m'adapte à Paris, exactement. Et surtout, les climats, la neige, tout ça, qui est tout à fait nouveau pour moi, la végétation, tout ça, c'est le désert là-bas, c'est complètement différent. Si tu dis s'il y a plus de centaines de milliers d'arbres et que là-bas, tu leur dis, ils auront du mal à te croire, et voilà. Et ils vont te demander s'il y a énormément de chameaux ou de chèvres ou des vaches, tout ça, ce qui n'est pas le cas. Voilà.
Est-ce que vous êtes allé voir les dinosaures du muséum?
C'était l'une des premières choses que j'ai visitées en France en venant ici. J'ai vu les dinosaures qui sont exposés au muséum d'histoire naturelle, qui est très impressionnant, où j'ai passé plus de temps à regarder, c'est vrai. Il était bien monté, il était bien articulé. Ça m'a beaucoup plus convaincu et ça m'a beaucoup plus ému que de les voir en morceaux beaucoup plus. Ouais.
Une fois que vous aurez obtenu votre Master 2, quel sera votre objectif suivant?
Toujours mon rêve, c'est de renouer des contacts, surtout avec la France et mon pays, et surtout la région d'Agadez, pour pouvoir voir la possibilité de développer des recherches au Niger. Peut-être il y aura une création d'université chez moi ou des écoles, des grandes écoles pour ça, pour permettre aux gens, aux autres de continuer dans ces domaines, pour avoir des hommes qualifiés, des jeunes qualifiés, pour faire avancer la science, surtout la paléontologie et l'archéologie au Niger et surtout à Agadez.
Parce qu'à Agadez, il n'y a pas d'université. L'université est à Niamey.
Exactement, parce qu'Agadez n'avait pas l'université. Elle est à Niamey. Le gouvernement a le projet de faire l'université à Agadez. Donc pour moi, ça sera logique d'intervenir là-bas et pour mieux exploiter les ressources. Pour Agadez, je suis vraiment motivé ou je suis intéressé à participer volontairement, à m'investir auprès de la jeunesse en faisant des projets, en faisant des événements qui pouvaient éduquer la jeunesse à se prendre en charge pour pouvoir participer de façon très très active au développement de la région qui nécessite vraiment un appui énorme de la jeunesse locale avant de demander à l'étranger ou à demander toujours à l'État. La culture, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Avec la culture, on voulait motiver les gens en organisant des festivals comme j'ai le projet de les faire bientôt en août prochain à Grèce pour mettre en exergue les talents de la jeunesse. On a des artistes qui sont là-bas locaux, comment s'investir et comment participer activement aussi à sensibiliser les parents, à envoyer des enfants à l'école. Surtout les jeunes filles, ça c'est l'un de mes combats et de ma modeste contribution pour la région d'Agadez en organisant ce festival et surtout de sauvegarder nos patrimoines et de contrecarrer toute autre agression étrangère qui se vit aujourd'hui au Niger ou à la frontière du Niger où nous avons nos propres cultures, nous avons nos propres moyens et nous voulons valoriser ces cultures, nous resterons toujours ce que nous sommes avec notre culture et notre identité.
Le monde est un campus. Une émission de Céline Duchesnay sur France Culture+.